et dernier acte du renouvellement des institutions. Le Congrès va élire les membres du 19e gouvernement. Les élus seront convoqués ce matin dans le cadre du pacte de gouvernance. C'est Mila Kulotu-Kumuli qui doit, dans la foulée, être élue à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Du changement à la tête de l'UTCFE-CGC, après 18 ans à la présidence, Christophe Coulson passe la main. C'est Fabienne Cadoca qui lui succède. En métropole, amélioration sur le front des incendies en Gironde. Pour la première fois depuis plus d'une semaine, les conditions commencent à s'améliorer nettement, selon la préfète du département. Qui succédera Antonio Guterres à la tête de l'ONU? 7 candidats briguent le poste de secrétaire général des Nations Unies. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité sont réunis depuis aujourd'hui à New York pour un vote indicatif. Le sport et l'UEFA qui menacent de boycotter les compétitions de la FIFA. Réaction de la puissante Confédération européenne qui rejette unanimement et sans équivoque le projet de la FIFA. La météo en Nouvelle-Calédonie, les nuages dominent en général. Quelques éclaircies apparaissent sur le sud et les Loyautés. Quant aux températures de la journée, elles sont en légère hausse, comprises entre 24 et 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, je le disais, c'est donc aujourd'hui le dernier acte de l'installation des institutions après les élections provinciales du 28 juin. Les élus du Congrès sont convoqués ce matin en séance solennelle pour l'élection des 11 membres du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lionel Sabot.
Une séance suspense très limitée puisque les noms des 11 membres du futur exécutif ont déjà largement circulé. Ils ont été confirmés hier par la publication par le Congrès des 4 listes de candidats qui ont été déposées. 4 listes de 14 noms. Il y en a autant que de sièges à pourvoir, plus 3. On rappelle que le gouvernement est élu selon un scrutin de liste à la proportionnelle et, sauf surprise improbable, mais toujours possible, on connaît donc le nom des futurs 11 membres du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les partis du pacte de gouvernance disposeront de 6 sièges, 4 pour les loyalistes, dont les premiers de liste sont Christopher Gigès, Nina Juillet, Laurent Bonnefond et Philippe Blaise, un pour le Rassemblement et un pour l'Éveil océanien. C'est Mila Kulotu-Kumuli qui est en premier sur la liste du Rassemblement parce que l'Éveil océanien n'a pas de groupe constitué au Congrès. Il est suivi par Alcide Ponga qui siégera au titre du Rassemblement. Les indépendantistes occuperont 5 sièges, 4 pour l'UCFLNKS dont les premiers de liste sont Gilbert Huyénon, Juanito Wamitan, Ernest Déméné et Meryl Marlier et un pour l'UNI dont le premier de liste est Billy Forrest. On relève que 4 des 11 futurs membres du gouvernement sont actuellement membres du Congrès. Il s'agit de Christopher Gigès, de Nina Juillet, de Mila Kulotu-Kumuli et de Juanito Wamitan. Ils devront démissionner de leur mandat du Congrès où ils seront remplacés par leur suivant de liste provinciale.
Les élus du Congrès sont donc convoqués à 9h ce matin pour cette séance solennelle d'élection du gouvernement. Juste après l'élection, les 11 membres élus sont convoqués à 11h à l'immeuble du Lys Rouge pour procéder à l'élection du président et du vice-président du 19e gouvernement. Dans le cadre du pacte de gouvernance, c'est Mila Kulotu-Kumuli qui doit être élue à la présidence. L'actualité institutionnelle toujours dans le Nord, ce coup-ci, l'UNI partage les présidences de commissions. L'Assemblée de la province Nord a été réunie hier à Koné sous la présidence de Paul Néaoutine pour procéder à l'installation de ses 10 commissions intérieures et à la désignation de ses représentants dans les différents organismes extérieurs. L'UNI garde la présidence de 6 commissions, mais elle en accorde 3 à l'Union calédonienne et 1 aux partisans de la France. Pascal Sawa se dit déçu, notamment parce que dans cette répartition, les commissions de l'aménagement, du développement économique, de la santé et de l'enseignement sont conservées par l'UNI. Vanessa Wachapeau, de son côté, présidera la commission du sport. L'UNI insiste cependant sur sa volonté d'associer tous les élus et tous les groupes sont représentés dans les commissions. Un rendez-vous sur notre antenne, c'est le nouveau président de la province des Îles, Michael Forrest, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la façon dont il entend gérer la province, quels sont ses projets, quelles sont ses pistes pour redresser les finances de la collectivité, mais aussi sur l'actualité politique calédonienne. Le président de la province des Îles, Michael Forrest, invité de Transparence, c'est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Dans le reste de l'actualité ce matin, Pascal Vittori reconduit à la présidence de l'Association française des maires qui réunissait hier à la fois son Assemblée générale élective. L'association comporte désormais 12 communes adhérentes et cette Assemblée générale a permis d'accueillir les 2 nouvelles communes qui ont rejoint l'AFM, Koné et Saraméa, comme le souligne Pascal Vittori.
On a eu le plaisir de valider l'adhésion de la commune de Saraméa et de la commune de Koné. C'est important pour nous parce que ça augmente le nombre de communes adhérentes. On est désormais 12 sur 33 communes. Et puis surtout, ça nous permet d'être mieux représentés en province Nord puisque Kwawa siégeait déjà à l'Association française des maires. Et là, c'est Koné qui vient de rentrer.
Et les 12 communes adhérentes de l'Association française des maires sont Nouméa, Dimbéa, Païta, Le Mont-d'Or, La Foy, Boulou-Paris, Moindou, Farino, Saraméa, l'île des Pins pour la province sud et les communes de Koné et Kouawa pour la province nord. L'Assemblée générale a ensuite procédé à l'élection du président de l'association et les maires ont choisi de réélire Pascal Vittori qui occupe cette fonction depuis 2024. Cela va permettre de poursuivre le travail engagé, nous a-t-il dit, même s'il faudra tenir compte des nouvelles communes qui ont rejoint l'association.
On va devoir s'adapter, c'est-à-dire qu'on aura bien sûr plus d'actions envers nos communes de la province nord. C'est un petit peu nouveau pour nous, mais bien sûr, on continuera également les actions qui ont été menées par le passé. Je rappelle qu'on a plus de 100 représentations dans toutes les institutions, qu'on a fait un gros travail, on a fait plus de 12 pages de propositions en vue d'un futur statut de la Nouvelle-Calédonie et de nouvelles compétences pour les communes. Et puis, bien sûr, on a nos assemblées générales qui se tiennent une fois par mois. On apporte beaucoup d'informations à nos membres. Ce matin, par exemple, on recevait encore la mission interministérielle pour parler finances avec les communes. On recevait le président du gouvernement pour nous parler également de finances publiques. Et puis, on recevait également la direction de la sécurité civile en préparation de la sécheresse et des feux de forêt qu'on pourrait avoir en fin d'année.
Et la prochaine Assemblée générale de l'Association française des maires est prévue dans un mois et devrait se tenir au Mont d'Or. Dans l'actualité judiciaire, l'interpellation mercredi de cet auteur présumé du vol de bouteilles d'alcool au Carrefour Market de Nguéa le 6 juin dernier. Ce jour-là, une bande de jeunes s'était introduite de façon rapide et concertée dans le magasin, le visage dissimulé, et était reparti avec de nombreuses bouteilles d'alcool sans que les personnels n'aient eu le temps d'intervenir, Lionel Sabot.
Oui, et les investigations menées par la police nationale ont permis d'identifier au moins 7 auteurs qui ont été placés en garde à vue. Il s'agit de 3 jeunes majeurs, tous bien connus de la justice, et en état de récidive légale, et de 4 mineurs de 16 et 17 ans, peu ou pas connus de la justice. Les majeurs seront présentés dès ce matin au parquet de Nouméa avant d'être jugés en comparution immédiate sous la qualification de vol aggravé par 3 circonstances, la réunion, le visage dissimulé et la commission des faits dans un local d'entrepôt de marchandises. Les 4 mineurs seront eux convoqués devant le tribunal pour enfants. Dans un communiqué diffusé hier soir, le parquet réaffirme que, et je cite, sa détermination à lutter contre le phénomène de vol en bande qui tend à se développer ces dernières semaines à Nouméa. Fin de citation. Le parquet qui indique que leurs auteurs feront l'objet de présentations immédiates au tribunal en sortie de garde à vue.
En bref, un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi au 4e kilomètre. Un peu après minuit, 25 pompiers sont intervenus pour tenter de sauver une maison qui était la proie des flammes. Malgré leur intervention, la maison inoccupée a été entièrement détruite. Il n'y a ni blessés ni victimes. Une enquête a été ouverte et devra déterminer notamment s'il s'agit d'un incendie volontaire ou accidentel. Il est 6h passé de 40 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole notamment et la situation sur le front des incendies qui s'améliore.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Envie de marcher pour la bonne cause? Rejoignez la balade solidaire organisée par les sociétaires élus Groupama Pacifique le samedi 5 septembre 2026 au domaine de Deva à Bouraille. Une marche accessible à tous dans un cadre exceptionnel au profit du RESIR, réseau de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie. En solo, en famille ou entre amis, choisissez votre parcours et vivez une marche conviviale et engagée. Infos et inscriptions sur inlive.nc. Groupama.
Toute aventure commence de la même façon. Un peu d'excitation, quelques cartons, 2 ou 3.
Oh, on l'a mis où déjà?
Ou un.
Waouh, super ce bon plan!
Avec EasyStart de Lagoon, on a ce qu'il vous faut. Profitez d'internet illimité, de la téléphonie VoIP, du nouveau modem Wi-Fi 6 et de son installation. Et en ce moment, jusqu'à 4 mois sont offerts pour toute nouvelle souscription. En plus, jusqu'au 31 août, tentez de gagner une nuit pour deux à l'Illomètre en jouant sur notre page Facebook. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur www.lagoon.nc.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et la situation qui tente à s'éclaircir en Gironde, l'amélioration des conditions météo a permis la réouverture de plusieurs communes près de Bordeaux. La vie normale reprend son cours, même si la vigilance est toujours de rigueur. Charles Lhuillier est l'envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde.
Oui, effectivement, 84 000 personnes ont aujourd'hui été autorisées à rentrer chez elles. Cela représente 9 communes autour de Bordeaux, Sestas, Saint-Aubin-du-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, entre autres. Des retours à la maison qui s'organisent lentement ici dans ces communes restées villes fantômes pendant 4, voire 5 jours pour certaines. Les commerces ont pu rouvrir. La 63, axe qui relie Bordeaux à Bayonne, est à nouveau accessible en voiture depuis le début d'après-midi. Véritable regain donc ici, même si Sophie Broca, préfète de Gironde, reste prudente et vigilante vu le contexte.
Il reste deux points actifs. D'une part, au sud de la Canot, sur le cordon dunaire du Porche, qui est un endroit difficile d'accès pour les sapeurs-pompiers. Et puis, la presqu'île du Cap Ferré, qui reste toujours inaccessible. Sur le plan des moyens, on est toujours avec 3300 sapeurs-pompiers mobilisés. C'est très considérable. 24 moyens aériens, dont des moyens aériens européens. Aujourd'hui, la commissaire européenne en charge des crises a passé la journée avec nous, est allée sur le terrain, a fait un survol du feu. Elle indiquait que partout, il y a des difficultés.
Voilà, des difficultés ailleurs, mais une stabilisation ici, synonyme aussi de reprise économique, même si les dégâts en termes de trésorerie pour les entreprises, notamment dans le secteur touristique, laisseront des traces. Surtout que vous l'avez entendu avec la préfète, la presqu'île du Cap Ferret reste toujours fermée ce soir, avec toutes les conséquences économiques que cela implique.
Et justement, une semaine après le passage des flammes, la colère des habitants du Porche grandit. Cette commune, située au nord de la presqu'île du Cap Ferret, est la collectivité la plus touchée par les violents incendies en Gironde. Un collectif qui rassemble déjà près de 700 résidents s'organise pour fonder une plainte collective et obtenir des réponses. Les sinistrés se demandent notamment si les autorités n'auraient pas sacrifié leur ville pour en protéger d'autres. Ils se demandent notamment pourquoi, sur les 240 habitations détruites, 184 sont situées sur le Porche. Ludivine d'Aurignac a perdu sa maison dans les flammes. Et elle dénonce également les défaillances en termes de communication de la part des autorités.
On attend qu'on nous explique pourquoi autant de maisons ont pu brûler, quels ont été les moyens manquants sur notre commune. On n'a pas eu d'informations ni d'alerte. Je pense que si notre commune avait pu bénéficier d'un système d'alerte préventive, comme toutes les communes ont pu obtenir et avoir, on aurait peut-être anticipé des choses qu'on aurait vraiment voulu prendre et qui nous tenaient à cœur. Nous, le Porche, c'était notre havre de paix. On l'a plus. Il est fantôme. C'est une ville apocalyptique. Donc, on aimerait comprendre beaucoup de choses à passer. Ça par des réponses.
Et la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine assure de son côté que la priorité était de préserver les vies humaines. Elle promet des réponses une fois à la fin des incendies. En tout cas, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et si la piste accidentelle est parfois privilégiée, les incendies volontaires ne sont pas des cas isolés, comme le rappelait hier soir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Dans 70% des cas, ces incendies sont criminels. On a procédé depuis le début de cette séquence à 275 interpellations qui se sont traduites par 31 détentions.
Laurent Nunez qui appelle une nouvelle fois à la plus grande fermeté face aux incendiaires. Mais la réponse pénale ne semble pas toujours à la hauteur des attentes des victimes, Jean-Baptiste Marty.
Oui, puisque la peine la plus lourde prononcée pour le moment est de 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, une sanction infligée par le tribunal de Mont-de-Marsan à l'encontre d'un sans-domicile fixe qui a provoqué 2 incendies en jetant un mégot par terre. D'autres pyromanes ont eux écopé de 2 ans de prison ou encore de 18 mois, dont 6 fermes avec possibilité de porter un bracelet et donc très peu d'incarcération, tout juste 10% des mises en cause interpellées, très loin de ce que prévoit le code pénal, ce que fustige Mathieu Vallet, député européen du Rassemblement National, invité ce matin de la grande interview sur Europe 1.
À Rennes, on dit qu'il faut appliquer la loi. C'est 10 ans quand on dégrade des biens par incendie ou des forêts et que ça met gravement en danger la vie des gens, c'est 10 ans. Le code pénal, il existe.
Des peines qui peuvent même aller jusqu'à 20 ans de prison si l'incendie a gravement blessé quelqu'un et s'il y a un décès. Le pyromane encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais ça c'est donc sur le papier, puisque dans les faits, ces sanctions sont rarement prononcées. Alors pour renforcer l'arsenal judiciaire, le député UDR Mathieu Bloch vient de déposer une proposition de loi, un texte qui doit être débattu à la rentrée en septembre prochain.
Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Et j'ajoute que 72 colonnes de renfort vont être envoyées pour soutenir les moyens des SDIS dans les zones qui brûlent ou là où le risque est important. L'État prend en charge le déplacement de ces colonnes de renfort qui comprennent chacune en moyenne une 60aine de personnes, des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et ou des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile et une 20aine de véhicules. Certaines colonnes vont venir notamment de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, de Mayotte et de Polynésie, indique le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Dans l'actualité internationale à présent, cette question: qui succédera à Antonio Guterres à la tête de l'ONU? C'est la question à laquelle doivent répondre les 15 pays membres du Conseil de sécurité réunis depuis aujourd'hui à New York. Il s'agit d'un vote indicatif qui doit donner une première tendance sur l'identité du futur secrétaire général des Nations Unies. Il entrera en fonction début 2027, une réunion à huis clos qui pourrait durer plusieurs jours, car ils sont 7 à vouloir prendre la tête de l'ONU, Antoine Bienvaux.
Oui, 7 candidats sur la ligne de départ, dont un homme au CV plus que convaincant, Rafael Grossi, diplomate argentin de 65 ans. Depuis 2019, il dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique et maîtrise donc parfaitement deux dossiers géopolitiques brûlants: le programme nucléaire iranien et le dossier de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Difficile cependant de le positionner clairement comme favori, car en face, la concurrence est rude. Certains spécialistes s'attendent notamment à voir les pays membres désigner une femme à la tête de l'ONU pour la première fois de l'histoire. Elles sont 4 à se présenter, dont Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et fervente défenseuse des droits humains. Parmi les candidats, on peut enfin citer Macky Sall, ancien président du Sénégal, accusé par les autorités de son propre pays d'avoir violemment réprimé les manifestations survenues au Sénégal entre 2021 et 2024. Pour être élu, un candidat doit recueillir au moins 9 voix sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le tout sans faire l'objet d'un veto de la part des 5 membres permanents dont fait partie la France.
Antoine Bienvaux pour Europe 1. Il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment une nouvelle présidente à l'UTCFE-CGC.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au PK7 rue Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la baie des Dames à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Et une nouvelle présidence à l'UTCFE-CGC. Elle est assurée depuis 18 ans par Christophe Coulson, qui a décidé il y a quelques mois de passer la main. Son départ de la présidence n'est donc pas une surprise et elle a été actée hier soir lors d'une assemblée générale élective du syndicat qui a désigné Fabienne Cadoca pour lui succéder. Christophe Coulson va rester au moins 2 ans aux côtés de la nouvelle présidente qui entend s'inscrire dans la continuité du travail de son prédécesseur. Et au moment de passer la main, Christophe Coulson estime laisser un syndicat en bonne santé.
Bah écoutez, je pense qu'il ne va pas trop mal aujourd'hui puisque notre organisation syndicale est la première organisation syndicale de Nouvelle-Calédonie depuis 6 ans maintenant. C'est la première force syndicale de la fonction publique. C'est la 3e force syndicale du secteur privé. Donc il y a encore une petite marge de progression et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble à continuer de porter notre syndicat au plus haut point des organisations syndicales de Nouvelle-Calédonie.
Il y a un peu d'émotion au moment de passer la main?
Oui, complètement, surtout après le beau discours qu'a fait Fabienne, ça m'a beaucoup touché.
Fabienne Cadoca est donc la nouvelle présidente de l'UTCFE-CGC. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de secrétaire générale adjointe en charge de l'enseignement dans le second degré, un syndicat qu'elle connaît donc bien.
J'ai commencé en 2005 en étant représentante pour l'UTCFE-CGC dans mon établissement au collège Raymond Vautier de Poigny-Mier. Ensuite, j'ai continué quand je suis arrivée au collège d'Auteuil. Et à partir de 2010, je suis venue en décharge au syndicat, au début pendant 3 ans à mi-temps. Et puis après, depuis 2013, je suis à temps plein. Donc au final, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis à l'UTCFE-CGC.
Donc c'est un syndicat que vous connaissez bien de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une petite appréhension au moment d'exercer ses fonctions de présidente?
Ah oui, il n'y a pas qu'une petite, il y a même une grosse appréhension, surtout que Christophe Coulson a amené ce syndicat progressivement à la première place des syndicats de la Nouvelle-Calédonie. Du coup, la barre est haute pour moi, donc forcément, il y a de l'appréhension. Mais bon, comme il va rester avec moi pendant 2 ans pour m'accompagner, pour m'épauler, je me dis qu'on se fera certainement du bon travail ensemble, comme on a toujours fait jusqu'à présent.
Des propos recueillis par Jean-François Baudin, Fabienne Cadoca, qui entame donc un mandat de 3 ans à la présidence de l'UTCFE-CGC. En bref, une bonne nouvelle pour les automobilistes calédoniens. Les prix des carburants vont baisser dès demain, le 1er août. Le litre d'essence passera de 191 francs 10 à 179 francs 80, soit une baisse de 11 francs 30. Quant au gazole, il enregistre une chute encore plus marquée de 206 francs 10 à 170 francs 60 le litre, soit 35 francs 50 de moins. L'actualité des transports et le Betty Show qui reporte sa reprise. Le navire ne pourra pas reprendre ses rotations le 5 août comme prévu en raison d'un retard dans son carénage, Lionel Sabot.
Oui, des pièces techniques attendues de l'international arrivées plus tard que prévu retardent la fin de ce carénage. La rotation du 5 août est donc reportée au 9, celle du 7 août au 13. En revanche, la rotation vers l'île des Pins du 9 août est maintenue et sera assurée par le Seabreeze 2. Les passagers concernés seront informés par SMS ou par mail. Leurs billets seront automatiquement transférés sur les nouvelles dates avec possibilité de modification ou de remboursement sous 7 jours. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Sud-Île précise que ses équipes sont mobilisées 7 jours sur 7 afin de permettre une reprise dans les meilleurs délais.
Et puis en bref, le SMTI renforce son offre de transport sur le réseau rail pour les vacances scolaires d'août. Le rail met ainsi en place plusieurs services supplémentaires sur les principaux axes du réseau afin de coller au mieux aux attentes de la clientèle. Ces ajustements s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue du service public de transport. Les observations recueillies au cours de cette période permettront de poursuivre l'adaptation du réseau en fonction des besoins réels des usagers. Toutes les informations relatives aux horaires supplémentaires et aux services complémentaires sont donc disponibles sur le site www.rail.nc. La province Sud accompagne ses étudiants avant leur départ en métropole. Comme chaque année, l'institution organise un dispositif d'accompagnement destiné aux étudiants qui poursuivent leurs études dans différentes villes métropolitaines, qu'ils soient bénéficiaires d'une bourse provinciale ou non. L'objectif étant de leur permettre d'aborder cette nouvelle étape dans les meilleures conditions et faciliter leur installation. Avant leur départ, les futurs étudiants participent donc à des réunions d'information. Loïc Basset-Crenier est le troisième vice-président de la province Sud.
C'était une belle cérémonie de remise des billets d'avion. C'est les billets qui ont été pris en charge par la province Sud pour permettre à cette jeunesse d'aller se former. C'est un moment très émouvant et c'est aussi un symbole important parce qu'on en voit des jeunes qui vont subir une transformation et c'est des personnes différentes qui vont revenir, des personnes qui auront mûri, qui auront grandi et qui vont pouvoir amener toutes ces compétences et ces connaissances acquises au profit de la Nouvelle-Calédonie. Donc la province Sud, on est très heureux de pouvoir les aider et de les accompagner pour faire le grand saut. C'était un super moment. Il y a plusieurs ateliers pour les accompagner au mieux, pour qu'ils sachent, une fois arrivés à Paris, même pour faire le trajet jusqu'à Paris, comment il faut faire pour que ça se passe au mieux. Aujourd'hui, c'était le dernier atelier avant de partir, donc on les a briefés sur le départ à Tontouta, les escales, comment faire en sorte pour que tout se passe bien, et puis la prise en charge une fois à Paris, dans le centre d'hébergement qui est mis à disposition.
Et hier, en début d'après-midi, donc plusieurs dizaines d'étudiants ont participé à la première réunion d'information.
Grâce. J'étais au lycée du Kikewe. Je pars à Digne-les-Bains pour faire un BTS métier de l'eau. Bah, c'est une opportunité parce que bah, c'est des charges en moins, des frais en moins à payer. Ça va être dur, voilà. Et bah, je suis contente d'avoir reçu le billet. C'est ça en moins penser, d'avoir un accompagnement. Soulagement. J'ai jamais voyagé, sinon c'est un truc à se perdre.
Ouais, je vais du lycée du Kikewe aussi. Je vais à l'université à Toulouse pour faire un BUT formation communication. Ben moi, ça me rend heureuse d'être accompagnée parce que ça évite en fait que nous, on soit perdus au niveau des démarches. Et du coup, on a dû faire les ateliers. Ben, les ateliers, nous, nous ont permis aussi de moins avoir de pression et de moins avoir peur en fait, quoi, au vu de notre départ et des démarches à faire. Et je suis très contente d'être accompagnée. En plus, on a eu un très bon accompagnement, très complet. L'accueil, le départ groupé, tout ça nous permet aussi que nous, après, on apprenne moins notre départ, notre voyage et qu'on ait moins de pression et de peur vis-à-vis du départ. Comme c'est, par exemple, moi, c'est un premier départ, donc j'ai jamais pris l'avion aussi. Du coup, ça m'évite d'avoir moins peur, en fait.
Et trois accueils groupés sont donc organisés à Paris les 16, 18 et 21 août pour l'ensemble des étudiants de la province Sud. Cap Horizon, c'est le salon des études supérieures destiné aux futurs étudiants et à leurs familles. Il se déroulera demain, le samedi 1er août, à l'UNC, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat. Le salon proposera une quarantaine de stands pour près de 130 formations offertes par une trentaine d'établissements et d'institutions. Pour en savoir plus sur l'événement, nous recevrons ce matin Sylvian Raffard-Artigue, le directeur de la communication de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et Anne-Marie Gobillot, qui est donc la directrice du Centre d'information et d'orientation du vice-rectorat. Ils seront nos invités du matin à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et justement, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris risque-t-elle, selon vous, de pénaliser les étudiants calédoniens en métropole? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 68% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre que l'épidémie de grippe aviaire qui touche la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie touche la Nouvelle-Calédonie. Ils sont donc 32% à dire qu'ils ne le craignent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h57, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous souhaitez participer à un trail extraordinaire ? Direction le Vanuatu. Le 10 octobre, vivez l'incroyable Volcano Wrap and Run à Efate. Inscription sur caldera-impact.com. Une destination exceptionnelle, le Vanuatu.
Les chaussures de sécurité Redback, c'est toujours chez Cheval Distribution. Profitez de notre offre spéciale. Les chaussures de sécurité Redback, USBOC et USBBA à 11 900 francs seulement. Rendez-vous chez Cheval Distribution. Offre valable jusqu'au 16 août dans la limite des stocks disponibles.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et quelques semaines après la fin de la Coupe du Monde de football, la FIFA voit toujours plus grand. L'instance qui gère le football mondial a annoncé hier, vous le savez, vouloir créer une société privée afin de gérer ses activités commerciales et attirer donc des investisseurs extérieurs. Lionel Sabot.
Oui, alors rappelons que ce projet de la FIFA prévoit la création d'une société, la FIFA Worldwide Enterprise, la FFE, chargée de gérer ses activités commerciales et événementielles. Des investisseurs privés pourront donc posséder des parts de la FFE, mais resteront minoritaires à hauteur d'environ 20%, a promis la FIFA, qui veut lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars dès cette année. La FIFA assure qu'elle conservera le contrôle exclusif de cette société ainsi que l'autorité exclusive sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier, les décisions réglementaires. Si le projet voit le jour, chacune des 211 fédérations membres de la FIFA pourrait recevoir une enveloppe financière exceptionnelle. Écoutez Steve Laigle, le président de la Fédération calédonienne de football.
Ce qu'on nous explique pour le moment, c'est que ça va doubler la dotation de la FIFA chaque année sur le trophée pour voir. Une petite fédération comme nous, c'est pas négligeable. Annuellement, on est à peu près à 300 millions par an.
Et donc ça ferait passer à 600 millions par an.
Voilà, et après, il faudra voir comment on peut utiliser ces fonds. Si c'est sur de la consolidation, de la rénovation de l'infrastructure, ça peut être très intéressant pour nous. On a besoin de terminer, d'améliorer le CTE et puis... Et puis de pouvoir aider les clubs aussi, peut-être un peu mieux. On verra comment c'est fléché, mais en tout cas, ils proposent de réfléchir et de travailler dessus, poser des questions, donc on va faire le travail.
Les principales opposantes au projet, l'UEFA, l'instance qui gère le football en Europe, a annoncé il y a quelques heures, après une réunion d'urgence, qu'aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité. Les 55 fédérations membres de la puissante Confédération européenne rejettent unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA. Les confédérations nord-américaines et asiatiques ont regretté, elles, que ce projet ait été rendu public sans que leurs membres n'aient été consultés auparavant, sans se prononcer sur le fond, tandis que la Confédération africaine de football s'est montrée moins critique, appelant à ses associations membres à examiner et évaluer le projet.
Merci beaucoup Lionel Sabot, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin les nuages dominant en général et donneront encore de faibles averses par endroits. Elles seront parfois modérées sur le nord-est et l'extrême nord. Au Loyauté, les éclaircies sont fréquentes. Sur le sud, les nuages deviendront moins nombreux en cours de matinée et le soleil finira par faire quelques apparitions. Le vent donc orienté est-sud-est autour des 10 à 15 nœuds pour ce matin. 15 nœuds sur le nord-est. Cet après-midi, quelques éclaircies apparaîtront sur le sud et les Loyautés, puis des nuages se développeront sur le relief et donneront des averses qui pourront parfois déborder vers le littoral en fin de journée. Le vent pour cet après-midi est à sud-est, compris entre 10 et 15 nœuds en général, et les températures, elles, 24 à 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Baudin. Et vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46.
toute l'info en trois lettres, RRB.